le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul.
Bonsoir. Patrice est là.
Oui, pour une fois. Enfin, pour deux fois. Enfin, pour toutes deux.
Et pas pour parler. C'est pas le professeur Patrice, c'est Patrice Véry, l'écrivain.
Ouais, mais qui est un peu prof aussi dans son écriture.
Écrivain, notamment de Caraïbes Force 15, que j'ai sous les yeux, qui vient de sortir chez Voyal, un roman d'aventure.
Ouais. En octobre dernier, oui. Force 15, je veux dire, ça décoiffe.
Avant cela, on aura Karine.
Tout à fait. Je vais vous présenter Le Septième Continent de Norman Jeangot, publié aux éditions Oniri.
Ok, Sébastien. Pareil, un bouquin.
Un livre dont vous êtes le héros assez récent, Le Fléau de Titan, le 67e défi fantastique.
Pour ceux qui suivent. Et puis Jean-Luc, toi tu vas nous parler des Razzie Awards, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'est l'anti-Oscar, clairement.
Ok. C'est bien d'en parler aussi. En plus, tu vas nous parler de films qui ont déjà été chroniqués l'année dernière
ça,
dans cette émission. Donc,
voilà, j'ai honte de
On est raccord là-dessus.
Ah non, faut pas avoir honte, faut le faire.
Allez, restez à l'écoute du 101.5. On est ensemble jusqu'à 22h et vous pouvez nous retrouver sur le chat. Salut les auditeurs, salut Ludo.
J'ai dû me dire
reconnu ?
Non.
C'est mal.
Oui.
Blonde Redhead. Le seul morceau qu'ils aient chanté en français. Non, il y avait aussi la reprise de Slogan de Gainsbourg Berkin. Pourquoi je passe Blonde Redhead en début d'émission ?
Cheveux rouges blondes.
Parce que c'est la tête d'affiche du festival Lévitation. Un des trois premiers noms qui ont été annoncés.
Au lac de Med.
Voilà, ce sera très probablement le vendredi 27 juin. Donc on a le temps de voir. Mais moi, je suis content. Déjà, les premiers noms, Boy Harsher et Cadavar, ça me va aussi. Allez, c'est l'heure de la chronique de Karine.
Dans le 7e continent, Norman Jango explore une société où la majorité de la population est addicte à son téléphone. Un petit clin d'œil à la société actuelle ? Sans doute.
Pas du tout.
Mais le cœur de cette addiction au smartphone, dans ce roman, c'est la santé. Et oui, tout est fait pour la contrôler. Des applications nommées Organia et Micromega existent pour vérifier et surveiller l'état de santé des personnes. Organia étant la plus précise, ces applications envoient une notification à son utilisateur ou utilisatrice à chaque fois qu'il ou elle entre en contact avec un composé chimique qui lui serait néfaste. Mais ce n'est pas tout. Des immeubles sont bien plus sécurisés que d'autres, des masques pour se protéger de la pollution ambiante, tout est donc sous contrôle. C'est dans cette ambiance qu'Elias vit. Il fait partie de cette population qui veut surveiller le moindre détail de leur état de santé et ainsi avoir le contrôle en permanence. Nous pouvons penser qu'avec ces implants nasaux, buccaux et intestinaux, rien ne peut entraver sa vie des plus saines. Cependant, ce n'est pas suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Il faut qu'il soit sûr et certain. Alors, il va entamer un programme dans le seul centre sanitaire, plus que réputé, l'Hexagone, détenu par le docteur Caruso, une figure emblématique du soin de la santé. C'est lors de son arrivée au sein de ce centre que tout ne se passe pas selon ses prévisions. Il va recevoir un message par l'intermédiaire de son application des plus surprenants et qui va le mener à s'interroger puis à mener une enquête de l'intérieur. Qui lui a envoyé ce message?
Ses intestins,
vraiment...
peut-être.
Et non.
Je suis, moi. Son microbiote intestinal, excusez-moi.
Non. Précise. Donc, qui est le docteur Caruso? Est-ce que sa vie est en danger? L'intrigue est posée. L'auteur mélange ainsi l'anticipation et le thriller avec talent, de sorte à ce que vous ne puissiez pas lâcher ce roman avant de l'avoir terminé et d'avoir compris ce qui se trame derrière cet élitisme, ce contrôle et cette société qui semble être sur le fil. Les chapitres se lisent d'une traite avec des touches d'humour, notamment au travers d'entêtes et des personnages aux personnalités très marquées qui ne cessent de surprendre. Elias ne se laisse pas abattre malgré son hypocondrie, montrant ainsi qu'on ne sait jamais ce dont on est capable, et Rose une insupportable peste. Oui, c'est vraiment une tête à claque. Qui, on va le dire vite, a tout de même une ou deux qualités. Je vous laisserai découvrir pourquoi. D'autres personnages sont secondaires, mais s'avèrent tout aussi essentiels au récit. Norman Jango met en lumière un futur peu éloigné de nous, où les technologies ont pris le monopole, quitte à nuire à la santé des personnes, et où la santé est un enjeu tellement obsessionnel que l'on perd dans un sens notre identité. Il dénonce l'élitisme et questionne un possible changement de société. Norman Jango est scénariste, réalisateur et écrivain. Il a écrit plusieurs romans et nouvelles, notamment Le Gardien Blanc, publié par les éditions 1115 en août 2024, et Exorison, qui est le préquel du 7e continent, est également publié aux éditions Onirois. Mais c'est pas les seuls titres qu'il a écrits, alors je vous invite à vous laisser tenter par ce roman mélangeant thriller et anticipation, ou le découvrir à travers ses autres œuvres. Et je vous laisse avec le groupe Scarif sur Radio G.
Vous êtes à l'écoute d'Imaginaire sur Radio Osier et c'est l'heure de la chronique de Sébastien.
Alors vous atterrissez lourdement sur le sol.
Ah bon ?
Une fois que vous avez repris vos esprits, vous constatez que les citoyens démoniaques de Salamonis vous ont encerclé. Vous fermez les yeux, refusant de voir leurs dents et leurs griffes, leurs couteaux à découper, leurs maillets et leurs massues, qui, dans une seconde, vont s'abattre sur votre tête.
Game over.
Ainsi s'achève votre aventure.
Ah bah, super.
Donc, en fait, je suis mort assez tôt dans l'aventure, parce qu'on se retrouve à un moment donné dans une ville un peu comme dans Walking Dead. Ouf. On a des villes américaines infestées de zombies.
Oui,
là,
et
c'est
déserte.
Salamonis, en fait, on rentre dedans à un moment donné de l'aventure et en fait, on a l'impression qu'elle est déserte, mais en fait, il y a des démons, des citoyens qui sont devenus des démons et qui vont nous pourchasser dans la ville. Donc, il va falloir faire attention parce que tout seul, on peut pas les massacrer. Hein. On n'est pas un super héros, on n'est qu'un héros. Et encore qu'un disciple qui vient des îles du Creuset pour essayer d'apporter un remède, l'huile fumée, à une grande prêtresse de Trof. Mais encore faut-il qu'il arrive à la trouver puisqu'elle se retrouve dans un temple qui est caché dans une cité invisible.
Donc en fait, mission.
Donc en fait, ce qui est intéressant avec ce défi fantastique, le fléau de Titan, donc le fléau démoniaque Mahu, c'est la peste démoniaque qui va transformer en fait des habitants de l'Alanzia, puis après on craint que tout Titan ne soit infecté.
Alors attends, resitue-nous un peu sur la carte là, Titan, l'Alanzia.
Alors Titan c'est le monde des défis fantastiques et l'Alanzia c'est un des continents en fait.
D'accord, quand même.
Et à partir de là, on a vu avec le Covid, ça se propage, c'est une pandémie en fait. Et on va apprendre que cette peste démoniaque, c'est pas une maladie courante. Elle aussi apportée par un être maléfique.
Le petit rat.
Alors moi, j'ai pas eu de chance dans la cité de Salamonis, parce que je voulais explorer, trouver des choses. Par deux fois, je me suis fait piéger par les démons. Il y en a même un, figure-toi, qui m'a fait je pensais que c'était un éclat lumineux d'un objet. Et en fait, c'était les dents en or d'un démon. Donc en fait, j'ai été me jeter dans la gueule du loup en pensant trouver un objet.
Dans la gueule du démon.
Parce que Salamonis c'est une ville fréquentable d'habitude. Il n'y a pas eu les mystères avec, de Salamonis.
Voilà, et les érudits qui vont peut-être nous aider, mais en fait on arrive un peu trop tard.
Ok.
Mais on peut les voir effectivement. Et en fait, on va démarrer l'aventure, non pas à Salamonis, mais au port du Sable Noir. On vient des îles du Creuset, mais en fait, on va dévier. Et au lieu d'arriver à un port ami, on arrive au port des Malfrats, le port du Sable Noir.
Est-ce que c'est déjà là que se passait le pirate de l'au-delà, non? C'est pas ça le... Non, c'était pas un défi fantastique avec des pirates, là?
Si, il y a les rôdeurs de la nuit qui se déroulent au port du Sable Noir, la cité des voleurs, de Ian Livingstone. Les pirates de l'au-delà,
On reverra ça.
Enfin bref, dans celui-ci, on arrive au port du Sable Noir. Et là aussi, j'ai eu encore plein de galères. C'est que très très vite, je me suis fait arrêter par les gardes du seigneur en place, le seigneur Azur. Donc j'ai été transféré en géole. J'ai perdu mon maître également. Donc ce que j'aime aussi dans cette aventure, c'est que on est mis en fait sous tension. Alors qu'il y en a qui disent qu'il est assez facile, mais en fait, très vite, j'ai perdu mon sac à dos et je me suis même fait voler mes remèdes. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 10 fioles d'huile fumée pour aider les habitants et à un moment donné, je n'en avais plus qu'une. Donc, j'ai voulu aider à un moment donné un nain dont la fille a été infectée, mais je ne pouvais pas parce que j'avais plus qu'une fiole d'huile fumée que je devais à tout prix apporter à la grande prêtresse. Donc ce que j'ai fait, Romain, c'est que le nain, il m'a invité chez lui, au quai, entre Salamonis et le port du Sable Noir. Je lui dis, en fait, je vais l'attaquer pour piquer son trésor.
Oh, le vilain.
Il m'a dit, j'ai un trésor en échange.
C'est pas sympa, là.
Mais sauf que le nain, il est malin, parce qu'il avait cadenassé son coffre avec un sortilège.
Et bien pris qu'il croyait prendre.
Donc je me suis fait encore avoir.
Comme quoi, le spécialiste des livres dont vous êtes le héros, finalement, il n'est plus le héros.
Mais ce qui est marrant, c'est que même en rencontrant, à un moment donné, un groupe de 5 bandits, j'avais plus que 4 points d'endurance. Donc je me dis, je prends la poudre d'escampette
Parce que, c'est une poudre magique, c'est la poudre d'escampette.
On peut fuir dans l'histoire. Et en fait, on me tire donc avec un arc, je reçois une flèche. Et à un moment donné, donc, même si je rate mon test de chance, j'ai un objet dans mon sac. Donc je le prends, je me dis, oh bah, en fait, ça me fait remonter le temps.
Ah.
Et du coup, j'ai pu en fait refuir et donc m'échapper sans crainte. Et en fait, c'est vraiment un défi fantastique, je trouve assez curieux. Il y a des fois, comme des fulgurances, de bonnes petites idées. Et puis autrement, bah après, ça retombe. Voilà, il y a des petits passages comme ça. On se dit, ouais, c'est chouette. On est dans le palais du Seigneur Azur. On découvre un peu le Seigneur qu'il est tyrannique, mais au travers avec ses séides, la bouche, les yeux, les oreilles. En fait, c'est des sortes de monstres et tout qui nous parlent. Et on peut, dès le début, être à la solde du Seigneur Azur ou rencontrer Nicodème, un sorcier bénéfique qu'on a dans la Cité des voleurs. Donc, on a pas mal de petites variations dans l'histoire, mais il faut faire attention aux démons parce qu'autrement, je me suis fait prendre par les démons. Il va falloir tout recommencer dès le début.
Et oui, c'est en ça, essayant. Vous êtes le héros. Voilà. Sauf quand on a mis un petit marque-page au quelques paragraphes avant.
Et d'essayer de trouver un peu le meilleur chemin possible pour avoir les objets, les potions qui vont me permettre justement d'éviter un maximum de combats et d'arriver plus facilement à la fin de l'histoire. Mais je trouve qu'au niveau traduction, il y a quand même un côté un peu lourdingue dans l'humour et qui casse un peu le côté un peu démon, et les illustrations sont quelconques et ça aide pas à l'immersion en fait.
Ok, et donc c'est un défi fantastique assez récent.
Assez récent, le seul de Charlie Hickson.
D'accord. Voilà.
2018.
Ah oui, ok.
Mais on passe quand même à un bon moment, il est assez copieux. 470 paragraphes.
Ouf.
D'où le fait qu'il y a pas mal de chemins et tout.
Bon, bah merci Sébastien. Voilà. On passe à ton choix musical.
Voilà. Plo. Oui, Plo, qu'on avait vu ensemble. Donc au Jokers. Un titre un petit peu sombre, pour être raccord avec le fléau de Titan.
On s'écoute ça tout de suite dans Imaginaire sur le 100.5. donc dans l'imaginaire un extrait de leur dernier album. On se disait qu'il devait sortir chez Mims Records, si j'ai bien compris, ou ce sera le prochain. Mims Records, donc label monté par les gens de Big Wool. Allez, on va parler un petit peu avec Patrice de ce livre que je viens de me faire piquer déjà. Caraïbes Force 5.
Non, 15.
Ah oui,
on va bien. Force 5, 5 petit joueur.
J'y connais rien du
bravo
tout.
Moi, ouais,
la ventilation. Bah,
tu réviseras ton échelle de Beaufort, tu verras que déjà Force c'est 10, c'est hyper.
C'est sur l'échelle de Beaufort, d'accord.
Ouais, non, bon. Ça, c'était un petit clin d'œil.
C'est du fromage, c'est ça, non? C'est.
L'échelle de on peut dire ça.
C'est quoi l'échelle de Beaufort?
C'est sur la force des vents.
C'est entre 1, il fait beau, et 20, il fait fort. Mais bon, et là, on est force 15.
On n'atteint jamais le 15 en général, mais bon. Bon
bah, d'accord. Sauf dans ce roman de Patrice Véry qui, où tous les potards sont poussés au maximum.
Oui.
Sur la couverture, déjà, on voit une créature préhistorique, oui. Probablement carnivore. Hein.
Oui, avec les dents qu'on voit sur la couverture, c'est, ouais. C'est carnivore, oui.
On voit que dans le ciel, c'est assez menaçant. Et puis aussi, on voit un avion de chasse. Ça ressemble à un avion de chasse américain.
Un Tomcat.
Donc, pur roman d'aventure, Patrice, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un roman d'aventure?
Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui me pousse à écrire, en fait? Parce que quand j'écris quelque chose, je ne me pose pas la question de savoir si ça va être un roman. Enfin, je sais que ça va être de la science-fiction, du fantastique, comme ça, mais après que tu le catégorises aventure, voilà, ça c'est autre chose, quoi. Ce qui m'a poussé à écrire ce roman en particulier, c'est en 1997. On se remonte un peu. Je venais de terminer une nouvelle qui a jamais été publiée, d'ailleurs. Qui, si elle devait être publiée, il faudrait que je la retravaille dans les gros lâches. Et une nouvelle assez horrible, dont on parle d'ailleurs dans le roman, c'est l'enquête des deux.
Ah, d'accord, c'était la préquelle à ce roman.
Voilà, c'est ça, qui a mal tourné. Et,
une histoire de serial killer, peut-être, hein, ou de terroriste.
Serial
pas trop,
killer hein. Dans un réseau sadomaso. Enfin bon, c'est un truc qui m'avait été inspiré d'ailleurs par ce film qui s'appelle Strange Days.
Ah oui, hein, film de science-fiction.
Dans lequel on enregistre les pensées
Catherine
des gens
Bigelow, ouais.
Et on les fait revivre à d'autres. Oui,
ouais, avec des implants. Ouais.
Et là, j'utilisais cette histoire pour raconter l'histoire d'un serial killer qui enregistrait les émotions de ses victimes au moment où il les tuait pour les faire revivre à des sadiques, enfin voilà, vraiment, ou à des masochistes.
Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais.
Mmh. Ah bon, donc ça, c'était cette histoire. Elle se terminait. L'enquête était résolue. Mais se terminait assez mal pour les héros parce que l'enquêteur pris dans une fusillade se retrouvait paralysé et sa femme, par vengeance, tuait un des coupables. Donc, à la suite de cette histoire, je me suis dit, bon bah l'enquête est terminée, mais ce couple-là, lui, il est paralysé, elle est meurtrière en fait, bien...
Qu'est-ce
qui leur arrive après meurtre. J'avais envie d'écrire la suite de leur vie. Et donc, je suis parti sur cet exil dans cette île des Caraïbes. Et bien entendu, dans un contexte un peu fantastique science-fiction, parce que je ne me refais pas.
Ok, alors, on peut parler de la couverture un petit peu tout de suite.
De Céline Simoni, très bonne
couverture. Ouais, comment ça s'est passé? Est-ce que tu lui as dit, tiens, voilà, des éléments, je veux qu'ils apparaissent là?
Ce qui est bien avec Voyelle, c'est qu'on est proche de l'édition. Les petites éditions, c'est bien parce qu'on est proche de la fabrique, quoi, après. Donc, avec les illustrateurs ou les illustratrices, on peut discuter. Donc, moi, je vais proposer quelque chose. Elle m'a dit, bon, c'est un peu trop chargé tout ça, faudrait peut-être garder ci, ça. Moi, j'ai dit, oui, c'est vrai, on peut pas raconter l'intégralité du roman sur la couverture.
Ouais, puis t'as pas envie de tout divulgacher non plus.
Voilà. Il fallait que ça se...
Là, on voit
en
déjà
fait,
des choses.
Ce qui est important, c'est que ça rende l'ambiance, donc elle m'a proposé quelque chose, et puis voilà, on a discuté, puis ça c'est... Après, elle a mis les couleurs, c'était superbe.
T'as un peu des éléments de ce que j'appelle le roman d'aventure, moi. On a déjà un lieu qui...
Oui, c'est...
Pour nous, les engins,
c'est du roman
est assez
d'aventure
exotique.
Fantastique, quand même. Hein.
Ouais, bon...
Bien que ça se classe plutôt dans la science-fiction, je dirais, quand on regarde la fin, mais bon...
Il y a une petite touche d'érotisme aussi, moi, j'ai trouvé dans ce roman.
Dans toutes mes histoires. Faut pas oublier que j'ai travaillé pour Piment et Muscade.
C'est quoi Piment et Muscade, Patrice?
C'était un fanzine dont la ligne éditoriale était légèreté et érotisme en littérature, qui publiait des nouvelles, mais assez, c'était pas, je veux dire, il fallait que ça soit quelque chose de à la fois travaillé, c'était pas 59 degrés, c'était à la fois assez travaillé et qu'on ne ressorte pas avec une impression de malaise. Donc, il y avait des sélections assez, et c'est, moi, ça me convenait, donc, j'ai écrit quelques nouvelles là-dedans. Et donc, effectivement, il y a, de toute façon, l'érotisme ou l'amour ou la, comme on dit aujourd'hui, la roman, quoi, thésie, tout ce que tu veux.
C'est la romanture.
Oui, je sais pas quoi, c'est le sel de la vie. Enfin, je veux dire, si t'as pas d'amour ou appelle-le comme tu veux dans une histoire où il y a des êtres humains, je sais pas, il te manque quelque chose, quoi.
Oui, il y a quand même pas mal de relations, de variées. Séduction entre pas mal de personnages, mais il y a aussi pas mal de personnages.
Oui, il y a quand même beaucoup de personnages, parce qu'il y en a peut-être pas loin d'une vingtaine, peut-être.
Ouais, ouais,
je
ne
vais pas tout compter, mais comme Caraïbes Force 15, ils appelaient pas ce 15 personnages déjà dans le commando, plus les héros, plus les habitants de l'île, etc. Oui, mais c'est bien parce que ça permet de créer des tensions, des parenthèses de vie et des motivations entre les personnages.
Aussi, un élément que je trouve qui fait plus roman d'aventure, ta science-fiction, cette fois, n'est pas très poussée par rapport à, par exemple, ceux qui grignotaient le fond de...
Ah oui, non, mais ceux qui grignotaient le fond de l'univers, c'est du space opéra, donc c'est vraiment... Ah oui, c'est du space opéra temporel.
Ouais.
Mais là...
Le space opéra, pour moi, c'est plutôt vraiment très très léger, on va dire, sur la... comment dire, la SF et... les explications et les trucs que souvent là, les gens ils arrivent sur une planète comme quand on descend dans la rue quoi tu vois dans le space opéra ils se posent sur un spatioport et puis paf en fait
non space opéra c'est quand même vraiment dans l'espace
en général,
t'as de planète opéra qui est sur les planètes space opéra qui est sur l'espace mais bon je sais pas si tu regardes la guerre des étoiles c'est de la fantasy si on veut mais c'est du space opéra fantasy quoi non mais là c'est ça mélange effectivement un roman d'aventure puisque on a quand même une confrontation entre un commando qui débarque pour soutenir un coup d'État au Venezuela et les héros qui sont là pour se reposer, donc ça va pas les aider beaucoup, et dans un contexte mystérieux. Donc ça pourrait presque commencer comme un roman d'aventure un peu fantastique, parce qu'il y a quand même le barracuda géant, la créature...
Ouais.
Et petit à petit, on va se rendre compte qu'en fait, si tu relis le tout et le final, c'est quand même de la science-fiction. Bon, ça mélange des gens, si tu veux, mais enfin bon, ça, je dirais, l'étiquette que tu mets dessus, bon, ça c'est au libraire, pour mettre ça dans leur bon rayon, mais moi ça me sert pas quand j'écris, quoi, donc c'est pour ça que souvent c'est un mélange.
Mais je veux dire, sur l'aspect science-fictionnel, tu t'étends pas beaucoup, voilà, les personnages subissent les choses, et puis bon, y a pas.
Oui.
C'est bon, peut-être des choses qui les dépassent complètement.
Le côté science-fiction, c'est vraiment le décor, effectivement. Et le décor, c'est important, le décor, parce que le décor, c'est le cadre dans lequel se déroule l'action, dans lequel vivent les personnages, mais c'est quand même le décor. Moi, j'insiste beaucoup sur j'aime bien les personnages, en fait.
Tout à fait, ouais. Et t'as commencé à l'écrire en 97.
Voilà.
Elle est sortie en 2024.
J'avais terminé en 97 et pour la petite histoire, en 2000, j'avais publié une nouvelle aux éditions du Seuil. Je me suis dit chouette, j'ai une petite relation avec les éditions du Seuil. Je vais leur envoyer mon roman. Bien entendu, ils l'ont pas publié. Je dirais même, ils ont bien fait. Parce que il était pas prêt, quoi, à l'époque. Et puis, ça m'a toujours trotté dans la tête pendant, de manière un peu récurrente. D'ailleurs, faudrait ce truc-là, je le retravaille, etc. Et en 2023, ça m'a pris.
Et qu'est-ce que tu pensais qui manquait, en fait?
Oh, pff ! Alors, si tu veux, alors j'ai passé 8 mois à le retravailler de A à Z. Donc, ce qui manquait, il y avait d'abord, on va dire, je pense que en plus de 20 ans, on évolue dans l'écriture, donc on peut aussi retravailler son style. Hein. J'avais fait un truc purement technique avec Word, j'avais souligné en jaune tous les « mais » et les « et ». Je pas dire qu'il y avait des pages. C'était jaune partout. Enfin, il y avait des trucs de lourdeur dans l'écriture, etc. Donc, il fallait complètement revoir. Après, il y avait des trucs très datés. Alors, erreur de jeune écrivain, tu sais, tu te documentes énormément. Alors, moi, j'ai jamais été dans les Caraïbes. Enfin, si, dans les Caraïbes, j'étais en Guadeloupe, mais jamais au Venezuela. Je connaissais pas du tout le coin, donc j'étais à la bibliothèque, j'ai travaillé le truc, Et après, tu mets tout, quoi. Tu écris comme une encyclopédie. Tu dis, regardez comme j'ai bien travaillé. J'ai mis ci, j'ai mis ça, j'ai la faune, j'ai la flore, j'ai les machins, etc. Bon, à un moment, c'est pas un dictionnaire, quoi. Il y a un moment où faut revoir ça pour que le décor, ça, c'est le fusil de Tchekhov. Si tu le mets, il faut que ça serve à quelque chose.
C'était un peu trop touristique, comme des fois, moi, ce que je reproche à des polars régionaux.
Oui, c'est ça, oui.
Des fois, nous font visiter toutes les églises et tous ces trucs-là, et l'enquête n'avance pas du tout.
Ensuite, il y avait les relations entre les personnages qui évoluaient de manière trop brutale. C'est-à-dire que on comprenait pas toujours, dans ma première version, c'est trop brutal, quoi. Par exemple, les relations entre Ombeline et Alexia, dans la première version, c'est elles se rencontrent. Ah oui, on est copines, etc. Tout. Là, j'ai quand même travaillé sur les raisons intérieures. J'aime bien être dans la tête des personnages, dans les raisons intérieures pour lesquelles ça se produit. Et finalement, ça finit par devenir des copines, en quelque sorte, bien que c'est pas possible. Et il y avait ça, il y avait toute cette relation entre les personnages qu'il fallait affiner. Voilà. Et après, il y avait ce final, là, que j'ai gardé, mais qui dans la première version apparaissait de manière trop brutale. C'est le Deus ex machina, comme on dit, un truc comme ça. Ah bah ça y est, il va s'en tirer, le gars, il a trouvé un truc pour finir. Etc. Alors là, j'ai quand même inclus tout au long du roman des éléments qui te font penser qu'il y a effectivement quelque chose. Il y a ce compte à rebours, là, on ne sait pas d'où ça vient, et il y a quelque chose qui. Et donc, quand tu as le final, qui peut te surprendre, mais malgré tout, tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose quand même. Voilà, donc là, il y a tout ça à reprendre. Donc c'est du boulot. Et voilà. J'étais content de le faire parce que comme ça me trottait, maintenant ça me trotte plus dans la tête, maintenant c'est bon, ça y est, c'est publié.
OK, t'as pas envie de continuer avec certains personnages?
Alors, je sais pas pourquoi tout le monde me demande ça. C'est peut-être parce que les jeunes écrivains, quand on leur dit ah ben c'est mon premier roman, c'est quoi une trilogie? Moi déjà quand j'en écris un, j'ai plus du tout envie de retravailler. Je sais pas faire ça, quoi. Je sais pas faire George R. R. Martin là, avec 10 volumes de 1000 pages dans le même univers. Non. J'en ai fait un, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et puis comme on dit aujourd'hui, voilà.
Il y en a d'autres de projets, d'écrits qui n'ont pas été pour toi aboutis dans tes années de jeune écrivain que tu aimerais remettre. Comme ça, sur l'établi.
Alors, j'en ai un qui n'a jamais été écrit, mais qui a été débuté, qui s'appelle Panne de réalité. qui est basé sur, alors c'est un truc complètement délirant. J'imagine que les superpositions quantiques peuvent exister au niveau macro, et donc que des personnes peuvent contrôler la réalité. Voilà. Et donc, c'est une idée que j'ai, avec des personnages que j'avais basés, alors c'est un truc très très classique, mais ça m'amusait bien à l'époque, des personnages que j'ai basés sur les quatre éléments, donc avec un gars massif qui représente la Terre, enfin toi des... Mais ça, je l'avais commencé, mais je l'ai pas fini. Bon, mais j'aurais jamais le temps, dans ce qui me reste à vivre, d'écrire tout ce que j'ai commencé. Bon. Puis des fois, on a plus envie de faire du nouveau que d'ancien. Là, c'est un cas un peu particulier, c'est vrai. Non, là, ce que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est le simulateur détraqué, que je voulais un peu comme un bon fleuve noir, anticipation de l'époque, là, une histoire sans prétention, où on est bien accroché, etc. Mais j'ai l'impression que plus je rentre dedans, plus ça devient bien construit, bien... histoire d'une rivalité... entre les trois plus grosses industries spatiales du monde, rivalité économique, etc., coup tordu, mais qui cache quelque chose de beaucoup plus énorme et qui peut mettre en péril l'humanité. Si l'humanité n'est pas en péril, à quoi ça sert d'écrire? Puis sinon, j'ai en préparation un recueil de nouvelles aussi. Que je rassemble, qui ont déjà été publiés dans des anthologies et que je vais rassembler, puis d'autres qui sont inédites.
Ok. Bon, alors, on le trouve où, ce Caraïbes Force 15?
Oh bah, sur le site de l'éditrice, là, sur Voyelle, ou chez Richer à Angers.
Donc, V-O-Y-E-L. Ah oui, il est en rayon à la librairie Richer.
Oui, oui, tout à fait.
Bon, sinon, quelques salons, on te verra au Salon Imaginaire, quand même.
Oui. À Imaginaire, au Salon de Chinon, qui est un salon généraliste, là, qui s'appelle Le Temps de Lire.
C'est à quel moment, ça?
C'est une semaine après Imaginaire.
Ah oui, d'accord. Donc, début mai, quoi.
C'est prévu, début mai, oui.
Ok. Est-ce que ce livre a été proposé pour le prix Bob Moran, qui récompense les romans d'aventure?
Pas à ma connaissance.
Vous pourriez. Parce que là, au début du livre, tu dis que ta maman t'avait suggéré.
Non, c'est pas la maman. C'est pas la mienne.
Ah bon? Ah oui, 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 d'accord.
Mais oui, c'est
une
vrai.
Une maman t'avait proposé de.
De proposer le scénario à Luc Besson. Oui, c'est assez marrant à l'époque, mais c'est vrai que. Mais bon, je pense qu'il va recevoir tellement de choses que.
Mais bon, je
m'y suis pas risqué.
Elle voulait dire qu'on retrouve des éléments, en fait.
D'aventure,
aussi,
ouais, d'aventure. De...
Du roman d'aventure, mais aussi des films d'aventure, quand même.
Ouais.
Qu'on faisait oui, peut-être plus que... dans les années 80, même si on en retrouve un peu quand même de temps en temps, qui mélange un petit peu ces événements.
J'ai une écriture un peu cinématographique, je sais pas si tu l'as vu dans les scènes d'action, ou quelques trucs qui... Et c'est, ouais. C'est important, je trouve, pour l'écriture, parce que ça donne une bonne spatialisation des événements. Des fois, on lit des trucs et tu lis trop vite, tu sais plus où sont les gens, quoi. Et moi, j'aime bien que ça soit clair dans ce qui se passe. Donc à ce moment-là, t'as pas le temps de te préoccuper du décor extérieur. Hein.
Ouais, ouais.
Mais
même dans les films, c'est un défaut des fois.
Oui.
Dans les scènes d'action, par exemple, des fois tu dis mais.
C'est exactement la différence que j'ai vue entre, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, le final de la bataille de Minas Tirith, où il y a un nombre de factions incroyables qui et tu n'es jamais perdu.
Ouais.
C'était le filmé. Et un autre, alors, à l'inverse, je crois que c'était dans la série des Riddick, là, un truc comme ça. Et à un moment, ça tire de partout, tu sais plus qui est qui, tu sais plus ce qui se passe, tu comprends rien. Donc c'est alors peut-être un petit budget, t'as pas envie de faire trop, donc ça tire de partout, après on voit qui c'est qui survit. Mais bon, dans l'écriture, c'est un peu ennuyeux, parce que faut quand même bien... C'est le lecteur qui se fait son imaginaire, donc c'est important que ce que tu lui transmets, il se le représente, pas forcément de manière la même manière que toi, mais qu'il se le représente de manière correcte, pour que ça soit pas... bizarre, quoi, dans... Si tu dis, t'as fait des personnages, il y en a un qui est le baraqué du groupe et que tu fais rentrer dans un tunnel hyper fin, tu dis, attends, c'est vraiment lui qui rentre là. Il y a des trucs comme ça. Bon, bref.
Bon, eh ben, tu nous as choisi une musique, mais c'est pas une musique de film.
Non, mais c'est un peu orageux quand même.
Et donc, c'est quoi, Patrice?
Eh ben, c'est la 6e symphonie de Beethoven, justement, le passage de l'orage.
Interprété par le Philharmonique de Varsovie.
bon ouvrage.
Alors Jean-Luc, qu'est-ce qu'on applaudit aux Razzie Awards?
Beaucoup de films et des acteurs magnifiques.
Ah oui, aussi.
Aussi, c'est ça. Donc du coup, je vais donner le nom entier, c'est les Golden Raspberry Awards. Mm-hmm. Quand tu sens l'anglais, l'accent quand même, voilà.
Ouais. Donc, qui veut dire
la framboise.
Ah oui,
dorée. Voilà, la cérémonie des framboises dorées. Voilà.
Bon.
Donc la cérémonie a été créée en 1981 par le publicitaire John G.B. Wilson, qui est diffusée la veille des Oscars. Simplement, en fait, il a créé pour s'amuser. Voilà. Mm. Alors le gagnant gagne un Razzie Award, qui est une framboise. Voilà, Patrice. C'est une bobine de film de Super 8, peint en jaune et d'une valeur de $5.
La vache.
Voilà. Donc j'aurais une question pour vous. Est-ce que vous savez la valeur d'un Oscar?
La statue,
c'est ça, à peu près.
$1000?
Tu veux dire combien ça coûte à faire?
C'est ça, en fait. Voilà.
C'est en or.
Je pense que.
C'est en or. Il y a un peu d'or, Sébastien.
Ils en distribuent beaucoup ce soir-là aussi, ouais, peut-être. On peut peut-être en faire beaucoup.
Donc, du coup, vous avez à peu près, non, vous savez ou pas?
$1000?
$5000?
$400.
Ah ouais.
Voilà, c'est pas beaucoup. Voilà.
Ah ouais, j'attendais à plus.
Donc là, je vais vous faire, en fait, on va voir plusieurs catégories. Donc je vais vous mettre à contribution pour faire un peu un.
Alors. La cérémonie est pas passée, donc.
Non, pas encore. La cérémonie, ce sera le 1er mars 2025. C'est ça.
Attends, t'as les nominés, comme on dit.
C'est ça, j'ai les nominés, donc on va faire un petit pronostic entre nous.
D'accord.
Donc, dans le pire film, vous avez Borderland, Joker Folia 2.
Ah ouais.
Madame Web, Mégalopolis, que nous avons chroniqué avec Sébastien.
Ouais, l'un avait aimé, pas l'autre.
C'est ça. Mmh. Reagan, qui est
même pas arrivé jusque chez nous.
Reagan, c'est ça, en plus. Mmh. Pour l'instant.
Bon. Bah ouais.
Donc pour vous, qui va gagner?
Moi j'en ai vu aucun.
Borderland, en plus je ne regarde que des bons films.
Borderland pour Sébastien.
Non mais Borderland c'est quoi justement?
C'est tiré de
Joker,
d'un jeu vidéo.
Joker, la folie à deux, c'est avec Joker, ouais, et Machine. Hein.
Avec Joaquin Phoenix et Lady très Gaga. Voilà, donc du coup je sais pas.
Grosse déception apparemment par rapport à celui d'avant. Ouais.
C'est ça, ouais.
Je dirais Joker, mais bon.
Joker pour Patrice, d'accord. Karine,
c'est au pif.
Au pif.
Ah ben moi j'ai pas d'avis.
Dis au pif, Karine.
Bah non.
Mais si.
Bah non, je sais pas.
Passons à la question suivante.
Gens pour leur travail quand même. Je suis pas forcément fan en fait des Razzie Awards.
Pourquoi?
Parce que.
Je trouve que c'est pas gentil.
J'ai vraiment l'impression qu'ils insultent les gens alors qu'ils ont passé du temps à créer leurs œuvres.
Est-ce qu'ils vont venir chercher leur statuette?
Alors moi.
Certains sont venus à Libérie.
J'ai toujours milité pour le droit, alors, dans mon cas, du lecteur, à aimer ou ne pas aimer.
Ouais, c'est
son problème.
En fait, c'est ça.
Et ça ne dévalorise pas le travail des gens. Simplement, il y en a
qui aiment. Et est-ce que t'en parles quand t'aimes pas?
Oui, mais de la remettre à un prix.
Souvent, on parle des trucs qu'on aime, nous.
Ouais, mais c'est humoristique, quand même.
Ouais, c'est ça. C'est satirique.
Ouais, c'est satirique.
En tout cas, cette cérémonie, elle n'est pas visible à la télé française.
Non. Il faut la retrouver sur Internet. Donc du coup, oui, il y a Alberi qui est venu chercher son Razzie Awards. Je crois qu'ils étaient deux ou trois à venir récupérer.
Ok.
Et voilà, pas plus quoi. Donc là, on passe au pire acteur.
Très mal.
Jack Black dans Dear Santa.
Ah bon?
En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui envoie une lettre au Père Noël, mais qui se trompe. Donc il envoie à Lucifer, voilà. Ah, en enfer, en fait, c'est ça, en enfer. Voilà, en fait, c'est un peu.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Donc voilà.
Pas mal.
Ouais, un peu bizarre quand même.
Le sujet est bon.
Zachary Levy dans Harold et le crayon magique.
Bah, ça promet ça.
C'est vraiment nul.
C'est spécial film de Noël.
Voilà, je te rassure, celui-ci est vraiment passé en tous les radars de tout le monde. Ah ouais. Ça, c'est un truc vraiment nul. Joaquin Phoenix dans Joker Folie à deux encore.
Ça sera un bon acteur.
Dennis Quaid dans Regan.
Ah, c'est lui, d'accord, qui incarne.
Jerry Seinfeld dans Unfrosted.
Jerry Seinfeld.
C'est ça, qui est l'histoire et création des pop-tarts.
C'est comme ça.
Ouais, c'était le comédien le mieux payé de la télévision.
À l'époque, c'est ça, ouais, à l'époque. Ouais.
$1 million par épisode de Seinfeld.
C'est
il recevait.
Oh, bah, ça va.
Je connais pas.
C'est connu, hein.
Ma série télé humoristique favorite, tous les temps, avec le Monty Python Flying Circus.
Tu sais, moi, je suis l'époque de Mission Impossible, vieille génération.
C'est l'humour juif new-yorkais des années 90.
Oui, c'est ça, vraiment, c'est vraiment très humoristique par rapport. De Patrice. Donc du coup, qui vous mettriez là-dedans, dans les nommés?
Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix pour Romain, voilà.
Je connais pas. Mais je connais pas les autres, alors.
Bah, je mettrais Zachary.
Comédien.
Ouais, j'aurais dit au pif, ouais.
Zachary, avec Seb. On passe à la pire actrice. Cate Blanchett dans Borderland, encore. Lady Gaga Joker, faut les à deux.
Ok.
Bryce Dallas Howard dans Argyle. Je sais pas si vous avez vu celui-là. Il y a Henry Cavill qui est
Dallas
dedans.
Bryce Dallas Howard, je connais ce gars. Je connais ce gars.
Il y a Dua Lipa qui est avec. Donc c'est un film de d'espion, je crois bien. Vous avez Dakota Johnson pour Madame Webb.
Qu'est-ce que c'est?
Jennifer Lopez dans Atlas. C'est un film Netflix, je crois bien celui-là.
Ah oui, c'est une daube.
Donc ah. On va. Sébastien,
Jennifer Lopez. On aime ou on n'aime pas, mais on fait pas Berk.
Moi, je vote pour Lady Gaga. Parce
Lady
que
Gaga.
Je disais que je préférais Céline Dion à Lady
aussi,
Gaga au JO. Donc
moi aussi.
Voilà. Moi aussi, tiens, je vais Lady Gaga, pareil. Lady Gaga.
Allez reprendre du Zizi Jeanmaire ou je sais pas quoi. La pauvre. Donc quoi, on l'a. Rien pour cette prestation-là, je lui donne le Grammy Awards. Une mauvaise prestation des JO.
J'espère qu'elle a gagné. Nous avons le pire duo à l'écran. Attention. N'importe quel personnage, mais surtout Jack Black dans Borderlands.
Ah, il l'aime pas, hein.
Non, mais ouais. Je pense que ce film, ouais, je crois que ce film, il se fait défoncer par tout le monde. Ouais, ouais, il faut aller voir.
Faut aller le voir.
Il peut être très, 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 très caricature à Jack Black.
Est-ce
hein,
que
on
ça fait pas de la pub, en fait, ces films-là qu'on connaît pas?
Oui. Non, franchement, non, je te dis pas trop.
Mais
non,
quand t'as ça,
c'est
un
des films.
T'as envie d'aller le voir, justement.
Oui, c'est vrai. D'un côté, c'est vrai. T'as raison.
Surtout des trucs qui sont pas sortis en France, peut-être on va en parler, quoi.
Si, en fait, ici, ils sont sortis la plupart, à part Reagan. Ils peuvent pas se sortir. Alors donc on passe à n'importe quel duo d'acteurs comiques dans Unfrosted. J'ai vu les films, c'est vrai qu'il est sympa, mais sans plus.
Pas comme, de quoi.
Comme tu disais, c'est un humour qui est assez vieillot.
Ouais.
Donc du coup, ouais, on sent que c'est.
Ah ben alors qu'est-ce que ça contre
Jerry Seinfeld
contre l'humour fait, vieillot.
Est-ce que vous aviez reproché à Tim Burton par exemple pour
oui,
son Beetlejuice Beetlejuice?
Ah oui, c'est vrai. Je pense que j'ai mis dedans celui-là. Beetlejuice, Beetlejuice.
Michael Keaton.
Ouais,
on aurait pu peut-être le nommer.
Toute l'équipe technique même.
Bon. Ils doivent avoir leur
avis. Là, j'ai pour Seb le casting entier de Megalopolis.
Oh non.
Je sais pas ce que t'en penses.
Ah, moi j'ai adoré. Donc.
T'as adoré? Ah.
Oh, il y a des performances d'acteurs et tout.
Moi aussi, mais j'avouerai que ça me fait mal de le voir dedans. Voilà.
Mmh. Surtout que c'est vraiment un film très personnel de Coppola et tout, donc.
Bah, peut-être que c'est trop personnel, en fait.
En tout cas, il y a des gens qui ont trouvé ça très bavard et.
Ouais, c'est ça, en fait, voilà.
Ouais, mais. Chiant.
Comme j'ai dit, je pense que le film aurait dû sortir il y a 10 ans, en fait. Ah ouais. Et pas à notre époque. Sinon, là, il y a
vraiment. Ah, c'est les goûts, les
c'est peut-être
hein.
Plutôt les effets spéciaux
ouais,
que toi, t'as.
C'est ça, voilà.
J'ai piqué les yeux. Là, on peut donner des racines aussi.
C'est une belle fable, quand même.
Faut bien former les jeunes aussi, un peu.
Oui, c'est ça. Il y a Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Il y a deux.
Il s'acharne un peu là.
Mais Joker.
Là, c'est de l'harcèlement. C'est comment harcèlement. Ça, oui.
On harcèle. Et Denise Quaid et Penelope Ann Miller pour Reagan.
Donc ça pourra... ouais,
c'est un film sur la vie de Reagan.
J'ai fini par le regarder celui-là.
C'est ça, ouais, c'est ça en fait. Bon. Alors moi, je mettrais Joker.
Moi, j'ai l'impression que
le pire duo à l'écran.
Il va en gagner pas mal lui. Ça a l'air d'être tellement nul.
Je sais pas ce que t'en penses.
Bah, je pense que Joker, il va en gagner pas mal.
Ouais.
Il était peut-être trop attendu.
Moi, je
là.
Connais pas
oui.
Ces films.
Ouais, c'est vrai.
Bah, après, c'est vrai que sont passés au niveau, avec les chants, je pense que ça a pas aidé, quoi.
Ouais.
À faire une comédie musicale.
J'ai pas vu
là,
le premier
que les gens cherchaient à faire. Et on finit avec la meilleure catégorie pour moi, le pire scénario.
Ah.
Joker Fouliade.
Ah, bon, ok. Reagan.
Kraven the Hunter.
Ah bah il paraît que c'est naze aussi.
Kraven ouais. The Hunter.
Voilà. Ouais. Ouh, bah, voilà.
Super héros.
Madame Web. Megalopolis.
C'est pas The Crow non? Ça n'a rien à voir avec The Crow?
Non, rien du tout.
Eric Kraven.
Non. Rien du tout. Non, non, du coup, lui, c'est dans l'univers de Spider-Man. Mmh. C'est le chasseur.
Ah oui, d'accord.
C'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça.
Et Reagan. Voilà.
Bah, là,
comme dit Romain.
Bah, le scénario était déjà écrit. Hein.
Ouais, c'est ça. Donc du coup, moi, je mettrais encore Joker. Voilà. Dans le pire scénario.
Moi, je pense que Joker va en remporter pas mal de
pas mal.
Award, d'après moi.
Je crois que j'ai le voir. Du coup.
On en reparle après. Mais...
En tout cas, là, de mémoire,
va en reparler,
il va y avoir une moisson.
C'est ça, ouais.
J'ai pas de film vraiment que je me suis pas cassé d'une salle de cinéma, je crois, en 2024. Mais,
ouais. 2025, ouais. Je mettrais Nosferatu.
T'es déjà parti.
Ouais, ah, pour voilà. S'endormir,
et
c'est
la
pas
pire
mal.
Actrice d'Elie Rose Depp.
Bon, ben voilà. Ça y est, on connaît déjà ton
personnage. Ça, c'est
Nosferatu, c'est un chef-d'œuvre, Nosferatu.
Ah non, mais là, non.
Oh, bah non, ouais.
Et juste... On en a déjà débattu ici même.
Oui, c'est ça. En effet.
Il manque de mordant.
Non, juste, on va rappeler qu'il existe la version française des Razzie Awards qui s'appelle Les Gérards du cinéma.
Ah, oui, ça me dit quelque chose.
C'est vrai, ça, et du coup, le.
Ça doit être sympa à couvrir.
Bon, bah, on en parlera dans une prochaine émission, non? Parce
que, avec plaisir. Et pour
sinon, la on va
suite,
pas avoir le temps pour l'agenda, là, sinon.
Eh ben, l'agenda, ouais. On voulait mentionner les Mycélias, là.
Ah oui, qui se déroulent
festival
en
festival de science-fiction qui se déroule dans 50 villes.
Jusqu'au 16 février. Et puis, il y a à la fois des projections, des tables rondes, des ateliers d'écriture. Donc, n'hésitez pas à regarder leur programmation sur leur site
rien à
et
Angers,
leurs réseaux sociaux.
Mais il y a des choses au Mans ou à Cholet, je crois, au plus proche de nous. Oui. Ok, on se donne rendez-vous dans deux semaines sur cette même antenne.
C'est ça.
Simple. Allez, on a juste une minute pour écouter Matsu Take, que tu as vu aussi au Joker's Pub, Sébastien.
Ah, un très bon groupe byzantin là qui va te programmer au Printemps de Bourges.
Le morceau Sabotage. À plus.
Salut.
Au revoir. Salut. Au revoir.